je suis bon aussi.
Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle
sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Campus Amiens, disponible sur le 87.7 FM et sur le DAB+. Bienvenue dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anthony. Il est venu nous présenter le dernier temps fort du 27e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, le 24 et 25 juin 2023. Bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour, très bien et toi ?
Très bien. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous rappeler ce qu'est le rendez-vous de la BD ?
Carrément. Du coup, les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, ça fait 27 ans que c'est organisé par l'association On a marché sur la bulle, donc depuis 96 de mémoire. Et le but de cette manifestation culturelle, c'est d'accueillir des auteurs et des autrices de bande dessinée, leur faire rencontrer leur public, leur lectorat, proposer des expositions aussi. Et depuis 2018, le festival s'organise à la Halle Fraissinet, du coup. C'est un bâtiment qui nous permet de réaliser une dizaine d'expositions, d'accueillir plus de 90 auteurs en simultané. Du coup, ça a pris de l'ampleur au fil des années. Donc voilà à peu près à quoi ressemble la manifestation maintenant.
Je l'ai dit un peu plus tôt, il nous reste encore un dernier temps fort ce week-end. Est-ce que tu pourrais revenir sur les anciens week-ends pour nous dire un peu comment ça s'est passé, l'ancien temps fort ?
Carrément. Du coup, le premier week-end de temps fort, c'est un peu le temps fort historique, parce que la formule qu'on a des quatre week-ends, enfin, on a deux week-ends de temps fort, donc le premier et le dernier week-end de juin, et deux week-ends intermédiaires. Donc ça, c'est une nouvelle formule qu'on a testée sur le temps du Covid. Mais à la base, c'était un premier temps fort, donc le premier week-end de juin. Et pour le coup, cette année, il s'est très très bien déroulé. On enregistre à peu près 7000 personnes qui sont venues sur la manifestation, si ce n'est plus, c'est les derniers chiffres qu'on m'a donnés. On avait reçu du coup 90 auteurs, les expositions avaient cartonné, tout le monde était content, il y en avait pour tout le monde. On avait de la franco-belge, du manga, du comics, du coup tout le monde était servi pour tous les goûts. Les auteurs étaient très heureux aussi. On a sorti trois retours en images. C'est Wideo en fait qui nous les monte et qui filme un peu tout ce qui se passe sur les deux jours de week-end. Et ils ont sorti du coup trois temps forts qui représentent un peu le festival dans sa globalité, qui présentera mille fois mieux que ce que je vais dire maintenant. Donc je vous invite à aller mater sur notre chaîne YouTube On a marché sur la bulle. Mais grosso modo, les auteurs étaient ravis de revenir ou ravis de venir pour la première fois. Le public était conquis, enfin tout s'est très bien passé pour le coup. Et pour les deux week-ends intermédiaires, ça s'est aussi très bien passé. On a eu une meilleure fréquentation que l'an dernier sur le premier week-end intermédiaire, du coup le 10 et 11 si je dis pas de bêtises. On a plus de 1500 personnes qui sont venues sur le samedi et dimanche, sachant que c'était aussi minuit avant la nuit. Du coup c'est un peu cool quand même, parce qu'il y a beaucoup de trucs culturels en juin qui se déroulent à Amiens, donc c'est cool. Et là le week-end qu'on vient de sortir, c'est aussi bien passé. On enregistre à peu près les mêmes chiffres qu'on avait fait l'an passé, donc globalement les gens commencent à comprendre qu'il y a une forme muséale au festival, pas que de l'animation, il y a aussi juste visiter les expos. Et...
Donc là, on revient sur comment ça s'est passé les années d'avant. Est-ce que vous avez eu des nouveautés, des nouveaux auteurs qui sont venus cette année ?
En fait, le fonctionnement du festival, c'est comment ? C'est un groupe de personnes nommé la CAF, qui représente la CAF. Et la CAF, en gros, c'est ceux qui décident des expositions et des auteurs qu'on va convier. Et généralement, ils invitent les gens dont ils ont soit découvert le travail, soit ils aiment le travail de base. Donc généralement, oui, on a toujours des nouvelles personnes qui n'ont jamais vu le festival, qui viennent sur la manifestation et qui sont très contents. De mémoire, là, sur le premier week-end... Waouh. J'en ai aucune idée. Enfin, c'est pas que j'en ai aucune... Je pense. Donne-moi 5 minutes le temps que je réfléchisse. Mais sinon, on a toujours que la nouveauté, quoi qu'il arrive. On reste jamais sur les acquis de lecture des gens. Parce qu'en fait, ce qui est cool avec ce système de choix d'invitation, c'est que c'est de l'invitation directe. Du coup, c'est nous-mêmes qui allons voir les auteurs pour leur proposer de venir sur le salon. Et généralement, oui, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça se fait par le biais de nos lectures. Et vu qu'on est pas mal de gros lecteurs, on lit très souvent. Et il suffit qu'il y ait un album qui nous a plu, même si le gars, il a fait qu'un seul album et que nous, ça nous a touché, bah, on va l'inviter. Parce que déjà, ça met de la force sur les gens qui en ont besoin pour le coup, dans ce monde très nébuleux de l'édition générale. Mais ouais, on a toujours nos petits coups de cœur qui sont là depuis très récemment ou qui ont découvert à peine le travail. On se dit, ah oh, putain, mais... Ça, c'est chouette, en fait. Faut qu'ils viennent, faut que je le rencontre. Du coup, oui, on a toujours de la nouveauté. Enfin, pour nous, du moins. Pour les gens, j'espère aussi, mais...
Et quels sont les choix qui ont été faits, qu'on peut retrouver en exposition ce week-end ?
Alors, c'est les mêmes, du coup, que le premier temps fort, parce que ça bouge pas. Parce qu'il faut savoir qu'on met un an à peu près pour élaborer des expos. Du coup, on est content qu'elle reste un mois sur salon. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus sur les rendez-vous, vous pouvez retrouver plein de choses formidables. On a de l'expo jeunesse, enfin de la franco-belge, qui s'appelle Jurassic Frank. Du coup, Frank, très rapidement, c'est un gamin qui se retrouve plongé dans la préhistoire et lui, il a l'habitude d'avoir son téléphone et de manger des pizzas. Et en fait, il se retrouve dans un monde, la préhistoire d'avant, sans les voyelles. Du coup, c'est assez comique, assez cool. Du coup, il y a une expo là-dessus, c'est une expo kermesse. Du coup, en fait, c'est pour les gamins. Et en gros, t'as quatre petites épreuves dans le lieu de l'exposition et à la fin, tu dois donner une clé. Cette clé te permet de... une clé verbale, genre une phrase, et ça te permet d'avoir des goodies et tout. Enfin, c'est pensé comme une kermesse préhistorique, t'as plein de jeux différents, donc ça c'est chouette. T'as de la franco-belge, on parlait de nouveautés, il y a la Bibliomule de Cordoue qui est sortie en 2022 ou 2021, je crois, enfin il y a 2 ans quoi. Et du coup, il y a une exposition dédiée à la Bibliomule de Cordoue aussi, donc là on va retrouver l'ambiance de la bande dessinée. Donc vu que ça se passe à Cordoue au 10e siècle, en fait, il y a deux pièces dans l'exposition. T'en as une qui illustre des originaux avec un propos, et l'autre pièce, c'est plus scénographié et plus une pièce à ambiance avec des tapis orientaux, une bibliothèque, de la belle lumière. Donc ça, c'est pour la franco-belge plus adulte. Après, on a du comics aussi. On a l'exposition Nouveau Noir. Nouveau Noir, c'est une exposition qui met en lumière un duo d'auteurs, donc un britannique et un américain. Donc c'est Sean Phillips et Ed Brubaker. Je sais pas qui est qui. Je sais pas qui est anglais, qui est américain, mais c'est un duo. Et du coup, il y a une rétrospective de leurs œuvres qui ont été faites du coup, dans le cadre des 27e rendez-vous de la bande dessinée, de la scénographie, vu que ça se passe dans un monde sombre, il y a un bar, il y a aussi des originaux, chose que j'ai pas aussi mentionné pour la Bibliomule, mais on a aussi des originaux. Du coup, les originaux, c'est vraiment les planches sur lesquelles les gars ont bossé avant d'être scannées et reproduites. Donc c'est cool d'avoir ça, surtout quand ça vient des États-Unis, un pays... assez lointain déjà, et en fait faire parvenir une œuvre, c'est comme si, je sais pas, vous faisiez de la peinture et que demain on vous demandait, parce qu'on peut l'avoir pour une galerie, mais c'est genre, au Japon, tu vois. Ah bah ok, bah t'as tout le trajet du coup, des fois ils flippent un peu, on comprend, mais on essaie de leur dire non, mais vraiment, on est professionnels, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ça va se faire dans les règles de l'art. Du coup, on a ça pour le comics, on a une exposition manga, pour le coup que je porte, qui s'appelle les Carnets Glapotica, enfin l'expo s'appelle Le Pal Empoisonné, mais du coup c'est adapté que les Carnets Glapotica, c'est une série de mangas, c'est un seinen, édité chez Kiun. Là, pour le coup aussi, c'est une expo à thème. Du coup, t'as plusieurs pièces avec une thématique illustrée par pièce. Du coup, en fait, le pitch de base, c'est que les Carnets Glapotica, ça se passe dans une Chine impériale, qui est à la fois réaliste, parce que y a un peu des noms mis dessus et des professions, et fantasmé, parce que tu sais pas non plus dans quelle époque historique tu es. Et tu suis Mao Mao. Mao Mao, c'est une apothicaire de 17 piges qui va être contrainte de travailler dans la cour impériale du palais. Et il faut savoir que dans cette cour impériale-là, il n'y a que les femmes qui sont tolérées, parce que c'est une espèce d'harem pour l'empereur, et les hommes n'ont pas le droit d'être là, il n'y a que les eunuques, du coup, pour éviter justement des petits couacs. Et du coup, Mao Mao, elle va se retrouver plongée dans cette ambiance-là. Elle veut juste pas faire de vagues, mais à côté de ça, c'est une apothicaire, et à côté de ça, elle a un goût pour la justice et résoudre des énigmes, et à côté de ça, elle adore les poisons. Genre, elle s'empoisonne la tête toute seule pour voir ce que ça fait, l'effet sur le corps. J'aime beaucoup ce trait-là. Et du coup, tu vas suivre sa aventure. C'est un peu Agatha Christie en Chine. Genre, en fait, il y a plein de petites enquêtes. Et du coup, elle va les résoudre. À côté, elle partage une relation un peu étrange avec un espèce d'administrateur qui s'appelle Jinchi, qui est un eunuque. Mais tu sais pas vraiment s'il est eunuque. Bref, c'est une espèce de lecture très simple. Et du coup, c'est l'expo manga de cette année. Ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à avoir une création originale. Un visuel d'expo qui est original. Du coup, c'est la dessinatrice elle-même qui l'a produit pour l'occasion. Ça, c'est aussi très très cool, parce que travailler avec le Japon, c'est pas facile tous les jours, parce qu'ils sont assez dans la validation totale de leur œuvre. Enfin, t'as pas le droit de déconner avec, vraiment pas du tout. Tu fais un détourage mauvais, ils peuvent t'envoyer leurs avocats et tu peux passer un sale quart d'heure. Mais du coup, le fait qu'ils aient accepté de faire cette création originale-là, c'est un peu un espèce de step qu'on vient de passer, notamment avec les licences étrangères, donc ça, c'est trop cool. Après, il y a l'expo pour les tout-petits, il y a les Tchouks. Donc les Tchouks, c'est une série chez Rutsev pour les primo-lecteurs. C'est une bande de copains qui vivent des aventures très très chouettes. Du coup, l'expo, elle est très interactive aussi. T'as des panneaux avec des magnettes. C'est pensé pour les gosses. Du coup, t'as du coloriage. Il y a même des originaux dans l'expo, ce qui est chouette. Juste pour commencer à titiller leur esprit un peu artistique, c'est cool. À côté de ça, t'as d'autres expositions. Il y a Zombielennium, Maison Millennium, du coup, c'est une série aussi chez Dupuis, un peu jeunesse, qu'on a alliée avec le Lego, parce qu'il y a une asso Lego qui s'appelle Fanabric, qui ont fait 8 mètres carrés. Enfin, ils ont reproduit le parc Zombielennium sur 8 mètres carrés de Lego, en gros. Et du coup, bah, pour l'occasion, ils sont venus, ils ont montré un peu les pièces qu'ils réalisaient, donc ça, c'est chouette aussi. Enfin, c'est un peu une expo qui associe la BD et le Lego. Et à côté de ça, t'as une autre expo, c'est Cinéma et Bande Dessinée, qui associe et la bande dessinée et le cinéma. C'est une expo qui accueille plein d'œuvres différentes, donc tirées du cinéma ou tirées de la bande dessinée. C'est une espèce de questionnement sur est-ce que c'est des vrais amis ou des faux cousins. Est-ce que c'est des faux amis ou des vrais cousins. C'est un peu ça la thématique, vite fait quoi. Du coup, voilà, plein d'expositions qu'on peut retrouver ou découvrir si jamais vous n'êtes pas encore venu sur le salon. Et je vous invite à venir, c'est très très cool.
Et justement, il y a des expositions, échanges. On voit également qu'il y a des animations pour les jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Carrément. Du coup, on a deux lieux qui sont propres à la jeunesse, donc les tout petits et les moins petits. Il y a la petite fabrique. C'est des ateliers qu'on propose. Donc généralement, c'est pour 10 personnes. C'est de 10h30 à 17h, il y aura une animation pour les jeunes. Et dans la petite fabrique, du coup, c'est des auteurs de bande dessinée qui vont axer leurs propos sur une thématique où ils vont proposer de créer un personnage, de créer un strip. Enfin, c'est de l'interaction avec les gamins. Du coup, les gamins dessinent forcément, où ils apprennent à faire un scénario. Du coup, ça, c'est avec les auteurs dits jeunesse. Après, on a la tente animation. Et dans la tente animation, c'est des lectures qui sont faites. Du coup, on convie tous les petits, même les parents, bien sûr, à venir sous une tente qui est éclairée par des ampoules qui descendent de la toile. C'est assez beau, en vrai. Et du coup, tu as des petits coussins, tu peux te poser et en fait écouter des lectures à haute voix. Donc, c'est de la lecture à haute voix. Il y a du kamishibai aussi. Donc, c'est des petits théâtres japonais dans lesquels des gens très passionnés par l'animation de la jeunesse narrent des histoires qui sont très cool. À côté, on fait aussi de la lecture picto-signée. Du coup, c'est pour apprendre aussi, pour des publics empêchés à apprendre à lire autrement. Donc ça aussi, c'est très très cool. Et ça, c'est en termes d'animation jeunesse. Derrière, je parlais de Frank tout à l'heure, de Jurassic Frank. L'animation jeunesse, c'est d'avoir une kermesse et du coup faire une espèce de parcours d'un point A à un point B. Donc ça, c'est aussi de l'animation. Ils avaient aussi dessiné avec les auteurs sur le premier week-end. Dans l'exposition Hilda, dont je n'ai pas parlé encore, il y a de l'animation jeunesse parce que les gamins, ils ont un petit livret qu'ils doivent remplir en résolvant des énigmes et en réussissant des épreuves. Donc il y a tout ce côté très interaction qu'on développe, que ce soit dans les expos ou dans les endroits propres aux animations jeunesse, notamment du coup la petite fabrique et la tente animation, qui est pour le jeune public, pour le coup.
Donc on l'a compris, il y a beaucoup d'auteurs. Et qui est-ce qu'on pourra rencontrer ce week-end ?
Il y en a pour tous les goûts, encore une fois, parce qu'on aime quand c'est vaste comme ça. Alors pour les connaisseurs de bande dessinée, un peu les vieux que la vieille, si je puis dire, il y a Benoît Peters qui vient sur le salon. Benoît Peters, il a énormément participé à l'émancipation de la bande dessinée, mais c'est quelqu'un de très reconnu, un peu comme François Skuyten. Je pense que des gens longs, parce que amiénois, et puis il a fait énormément de choses. Et du coup, en fait, les deux ont travaillé ensemble, notamment sur les cités obscures, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas un domaine que je maîtrise beaucoup, mais je sais qu'il a fait ça. Et du coup, lui, il donnera aussi un auditorium. Donc, un auditorium, c'est un endroit où on peut accueillir 150 personnes assises, et c'est de l'ordre de la conférence posée. C'est quelqu'un qui va narrer un peu son histoire. Enfin, c'est très chill, très calme. Et du coup, il y aura Benoît Peters qu'on pourra rencontrer. On est dans la dynamique manga aussi, et du coup, on reçoit 5 auteurs de manga français pour le coup. On en a de chez Kana, l'édition Kana avec Senshiro qui a fait Sweet Concrete. On a Federica Di Meo qui est la dessinatrice de Onera qui est aussi une licence chez Kana. Chez Ankama, on a les dessinateurs de Dofus et Wokfu, enfin, de certains tomes, pas tous les tomes. On a la nouveauté de chez Glénat qui s'appelle Louis. Louis, donc c'est l'auteur, et son œuvre s'appelle Red Flower, qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, qu'il faut que je lise. Mais il est aussi convié sur le salon. Enfin, on a cette dynamique-là de mangaka de mangaka français et française. À côté de ça, en auteur jeunesse, on a toujours des noms très sympathiques à entendre. Au-delà de la jeunesse aussi, on reçoit le prix France Bleu, qu'on remet du coup le samedi matin, si je ne dis pas de bêtises. Et le dimanche, on fait un format de rencontre avec les auteurs qui étaient pressentis pour recevoir le prix France Bleu, notamment du coup il y a Aurel Gaillard, Kamika, Lucie Brion, Cyril Pommes, Jaume Palardo, sans écorcher son nom, donc tous ces auteurs-là dont le grand public je pense a au moins le nom ou l'œuvre en tête, qui viennent sur le salon justement parce qu'on reçoit le prix France Bleu, Derrière, on a des auteurs jeunesse aussi toujours. On a Régis Autier qui revient avec Xavier Fourquemin parce que les deux ont fait la série Les Révolutionnaires, qui est une série aussi jeunesse pour le coup. Donc voilà, plein d'auteurs, plein de noms que les gens, je pense, ont en tête. Et ce qui est sympathique avec ce dernier week-end, c'est que on est en association avec les maisons d'édition, du coup, et c'est entre elles et nous qu'on compose le plateau du dernier week-end. Donc eux, ils nous soufflent un peu des noms qu'ils aimeraient bien voir sur ce salon-là. Nous, on leur souffle des noms qu'on aimerait bien aussi avoir sur le salon, et on compose ensemble selon nos envies et les possibilités aussi, parce que ça dépend pas que de nous, mais aussi des artistes en question. Donc du coup, on a aussi... On propose d'autres choses. On n'est pas sur nos acquis qu'on peut avoir sur le premier temps fort, où des fois il y a des noms qui reviennent forcément parce qu'on aime beaucoup ces gens-là. Là, sur le dernier week-end, on se permet d'explorer d'autres manières d'inviter des gens, en gros.
Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont organisées pendant ce week-end. Est-ce que vous avez un coup de cœur en particulier ?
Bah, moi, j'ai hâte de voir un peu ce qu'on va dire les lauréats de France Bleu. Dedans, il y a Lucie Brion qui a fait Voleuse, que je vous conseille de lire parce qu'il est très très cool. C'est un bouquin sur l'adolescence qui est mortel à lire, genre vraiment c'est cool. Il y a aussi Cyril Pommès qui a fait Moon, qui est aussi un autre bouquin. On est un peu sur la thématique de l'adolescence avec cette composition France Bleu. Cyril Pommès, il a fait Moon et c'est un bouquin aussi très cool. C'est des jeunes ados qui vivent dans une ville un peu balnéaire, et en fait la ville balnéaire, elle vit que pendant l'été, et bah, l'hiver ils sont touchés, et du coup c'est comment t'as ce rapport là avec une ville fantôme du jour au lendemain. Enfin, c'est très très chouette. Donc moi j'ai hâte de voir un peu ce qu'ils ont à nous raconter là-dessus. On anime aussi un format qui s'appelle test de personnalité avec deux auteurs de manga, qui s'appelle Quel personnage de manga es-tu ? On essaie un peu de faire de l'interaction. Du coup, ça sera avec Senshiro et Federica Di Meo, qui sera le dimanche après-midi à la Fabrique, où là aussi on essaye de proposer aux auteurs de dessiner en live. On aime toujours faire ça. Inciter les gens à dessiner. C'était très captivant pour le public de juste voir quelqu'un réaliser un dessin de A à Z, parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est très complexe à faire. Donc on insiste toujours, lorsqu'on fait des formats de rencontres, notamment dans les fabriques, à faire dessiner les gens, parce que c'est toujours plus plaisant et plus cool. Là où l'auditorium, du coup, qui est notre autre format de rencontre, où on est plus sur du blabla, qui est aussi très intéressant, mais moins de dessin. Donc voilà, ouais, moi, je pense France Bleu, ça va être cool. Après, Benoît Peter, c'est une découverte aussi pour moi, du coup, de le voir en physique. Donc oui, bien sûr, ça aussi, c'est très intéressant pour les gens qui ont lu Les Cités d'Obscurs ou d'autres œuvres qu'il a pu faire. Après, comme je le disais, il y en a pour tout le monde. Donc j'ai pas la prog artistique en tête en entier. J'ai que quelques briefs de choses, mais de mémoire, je sais qu'il y aura une conférence sur le féminisme et sur l'hashtag MeTooBD. Il y aura d'autres choses sur l'animation et la bande dessinée. Enfin, on propose toujours plein de formats différents qui explorent plein de sujets actuels ou autres. Donc voilà, si on pourrait garder France Bleu, ça va être très cool. Et du coup, le salon est ouvert de 10h à 18h. Voilà, non-stop. Il n'y a pas de pause entre midi et deux. Du coup, venez à partir de samedi matin, repartez à dimanche soir.
Et où pouvons-nous retrouver plus d'informations sur le programme ?
Du coup, tout est sur notre site rdvbdamiens.fr, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, vous tapez rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, vous trouvez le site très rapidement. Le site est très bien fait pour le coup, parce que bah, vous avez un encart sur les auteurs qui sont conviés, un encart sur les formats de rencontres qu'on propose, un encart sur les expositions. Enfin bref, tout est fait pour que tout le monde s'y retrouve. Un plan de la Alfred Ciné avec comment qu'on y va, comment ça... Enfin, c'est très simple. Et petite précision sur les accès aussi, vu qu'on est sur une halle. N'ayez pas peur quand vous voyez des travaux sur la halle, c'était pas nous qui faisons ça. Parce qu'on a l'impression de l'extérieur qu'il n'y a pas de festival BD, dans le sens où on dit, mais tain, il y a énormément de travaux et de gens qui travaillent ici, c'est très étrange. Mais en fait, non, c'est l'extérieur. À l'intérieur, c'est magnifique. Donc, osez pénétrer ce lieu qui est formidable, dans lequel on essaye de proposer des choses cool.
Et là, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un message à faire passer ?
C'est cool que les gens s'intéressent de plus en plus à la bande dessinée. Ça, c'est très très cool. Parce qu'on a tous vu, période Covid, la librairie qui est un commerce essentiel, qu'il devient parce que les gens râlent. Et en vrai, c'était cool que tout le monde râle pour ça. Donc, ouais, hein, c'est une espèce de... Enfin, la BD, elle vend en poupe et c'est trop bien. Et il faut juste le conserver comme ça. Et plus dire, ouais, ça, c'est... T'as vu comment c'est à la mode ? Juste, en fait, c'est normal que ça soit à la mode parce que c'est bien. Enfin... Voilà, juste, c'est comme le manga en fait. Enfin, je défends le manga parce que c'est mon travail maintenant et c'est aussi ma passion, mais dire que le manga c'est à la mode, c'est une chose, mais maintenant faut juste accepter le fait que ça soit à la mode et du coup juste le normaliser en disant bah en fait c'est normal que ça soit, enfin que tout le monde en parle parce que c'est bien et du coup que ça acquis ses lettres de noblesse et que ça bouge plus, un peu comme le roman. Enfin, personne va remettre en cause quelqu'un qui lit un roman, tu vois. Parce que bah, dans la tête des gens, c'est un acte fou de culture. Donc mettez au même titre ça et lire des BD. Voilà.
Et ben merci beaucoup, Anthony.
Ben, merci à vous.
Pour rappel, le dernier temps fort de la 27e édition des rendez-vous de la BD aura lieu ce week-end du 24 et 25 juin. Ce podcast est à réécouter sur le site radiocampusamiens.fr. C'est la fin d'Info Club Sandwich. On se retrouve très bientôt pour encore plus d'actualités culturelles. Au revoir.